Étude sur Cantique. Olivier et l'autre Laurent.
Je te connais, toi Jésus. Te connais. Il n'y a rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon Seigneur, ma joie.
Bonjour bien-aimés en Christ, nous sommes ravis de vous retrouver cet après-midi en direct dans ce studio à l'heure de cette émission Études sur Cantique. Nous entamons en ce jour la nouvelle saison 2022-2023 de l'émission Études sur Cantique. Et pour débuter cette nouvelle saison, nous allons étudier les paroles de la chanson intitulée « Il nous faut croire », une composition de la chorale « Cri de joie » que je vous laisse à présent écouter.
Gloire à son
à contenu assez court, avec des paroles très simples et qu'on va vous présenter tout à l'heure. Vous savez très bien qu'à l'heure de l'émission, je suis toujours avec l'autre Laurent pour commenter la chanson. Mais bien avant d'en arriver à ce stade de l'émission, nous allons découvrir les paroles. L'autre Laurent, bonjour.
Bonjour Olivier.
Comment vas-tu?
Oui, ça va.
D'accord, nous sommes encore là cet après-midi dans cette émission. Nous allons étudier le chant « Il nous faut croire » que nous venons d'écouter. Alors, on va aller à la découverte des paroles de cette chanson de cet après-midi.
Oui, je vais commencer avec le refrain « Il nous faut croire, il nous faut croire en lui, il nous faut croire, il nous faut croire en lui. Il nous faut croire, il nous faut croire en lui, gloire à son nom. » Premier couplet. Son grand amour est répandu dans nos cœurs, son grand amour est répandu dans nos cœurs, son grand amour est répandu dans nos cœurs, gloire à son nom. Deuxième couplet, Jésus est mort, mais il est ressuscité, Jésus est mort, mais il est ressuscité, Jésus est mort, mais il est ressuscité, gloire à son nom.
Très bien, on va y aller, on écoute juste un extrait de la chanson L'autre Laurent, et on va passer ensuite, on va découvrir ceux-là qui l'ont, selon qui l'ont chanté. On écoute un extrait de la chanson.
Il nous faut croire en lui, il nous faut croire, il nous faut croire en lui, gloire à son nom. Il nous faut croire, il nous faut croire en lui, il nous faut croire, il nous faut croire en lui, il nous faut croire, il nous faut croire en lui.
Tout à l'heure, nous écoutons là, il nous faut croire, excusez-moi, il nous faut croire que nous allons étudier. Alors, l'autre Laurent, nous savons que ce cantique nous est présenté par Cri de joie. Et Cri de joie, je crois savoir que c'est un groupe de gospel réunionnais et qui partage la paix, l'amour et la joie. Mais à part ça, est-ce qu'on a d'autres informations sur l'autre Laurent?
Oui, bien sûr. Je dois dire que les premiers pas du groupe Cri de joie ont eu lieu sur le front de mer de Saint-Pierre, où les membres se rendaient pour chanter et faire des sketchs pour exprimer leur foi. Et après quelques mois, l'attrait de cette première représentation du groupe en formation est devenue tangible pour tout le monde. Pourquoi? En raison de l'impact que ces représentations produisaient sur les premiers spectateurs, ceux qui venaient assister à ces spectacles. Ainsi, en 2013, le groupe Cri de joie a été mis sur pied en tant qu'association socio-culturelle. Et il faut noter que les chants de ce groupe ne sont pas cantonnés à une culture unique, mais au contraire, ce chant représente un arc-en-ciel d'inspiration à la gloire de Dieu auprès d'un public multiculturel. Là, il faut comprendre, quand on parle de l'île de la Réunion, c'est un peu juste à côté de Madagascar. Sur la carte, c'est juste un point. Donc, quand tout à l'heure j'ai dit qu'ils se rendaient sur le front de mer, c'est parce qu'ils sont entourés de mer de tous côtés. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais qu'est-ce qu'ils vont aller faire au bord de la mer, tout et tout. Donc, c'est une île entourée de l'océan de tous côtés. Donc, les seuls endroits où ils pourront se retirer, c'est les bords de mer. Voilà. Et j'ai eu quelques informations sur le président du groupe. Curtis Loret, qui dit que l'objectif du groupe est de promouvoir un message de paix, d'espoir et de joie dans toutes les actions qui sont menées, et c'est pour cela qu'ils ont toujours organisé des spectacles et soutiennent des causes nobles. Donc c'est pas juste un groupe musical, mais ils soutiennent des causes nobles. Ils chantent dans les maisons de retraite pour les personnes âgées. Et j'ai aussi quelques informations sur le chef de la chorale, Michel Anika, qui dit « Le gospel, c'est une bonne nouvelle. C'est plus qu'un cantique religieux. Le gospel, c'est plus qu'un cantique religieux. C'est nos cœurs qui s'expriment, témoignant de notre foi, de ce que notre foi nous fait vivre. Et à travers nos chants, nous voulons transmettre la joie, la paix, l'amour et l'espérance. » Donc voilà la philosophie ou ce qui renseigne les activités de ce groupe. N'oubliez pas, le gospel, c'est la bonne nouvelle, c'est vrai, mais ça va au-delà d'un cantique religieux. Celui qui chante est en train d'exprimer et de témoigner de la transformation qui s'est produite dans sa vie.
Très bien, merci l'autre Laurent. Nous allons à présent passer à la phase commentaire de ce chant, de cette chanson, et on va aller pas à pas. On voit que la chanson est composée, je vais dire, de trois strophes, je vais le dire comme ça. C'est vrai qu'il y a un refrain, il nous faut trois, et les deux strophes qui suivent. On va commencer avec le refrain, l'autre Laurent, et je vais laisser les auditeurs écouter juste le refrain. Et on va passer aux commentaires de cette partie de la chanson. On y va avec le refrain. D'écouter la partie refrain. Alors, l'autre Laurent, le chant commence avec cet appel réitératif. Il nous faut croire en lui. Pourquoi une telle insistance dans l'appel?
Bon, là, il faut dire que la foi en Christ est un cheminement. Il y a l'instant où nous avons rencontré le Seigneur. Mais ce n'est qu'un début. C'est pour ce que j'ai parlé de cheminement. Et maintenant, de bout en bout, nous devons maintenir notre foi en lui jusqu'au dernier souffle. C'est ça le programme de Dieu. Vous avez cru en lui à un moment donné, vous continuez de croire en lui jusqu'à ce que vous finissiez votre course ici-bas. La vie chrétienne ne se conjugue pas au passé simple, ni au passé antérieur, ni au futur. C'est au présent. C'est-à-dire, en telle année, j'ai cru, mais je ne suis pas passéiste. Je continue à vivre ma foi au jour le jour. C'est ça la vie chrétienne. Et là, pour vous donner un exemple, à titre d'illustration, je prends l'apôtre Paul, d'accord, Saul de Tarse. En Actes 26, à partir du verset 17, il est dit ceci, ça c'est lors de son appel. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Maintenant, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, c'est Jésus qui s'adressait à Saul de Tarse, pour que ceux à qui tu prêches la parole reçoivent par la foi en moi, quoi? Premièrement, le pardon des péchés, ensuite, l'héritage avec les sanctifiés. Vous voyez que la sanctification, la sainteté intervient dès les premiers instants quand Paul a reçu son appel. C'est pour cela que si vous prenez toutes les épîtres de Paul, vous verrez le caractère central de la sainteté qui est un style de vie, de la sanctification, qui est un acte que l'Esprit de Dieu opère en nous. Je vais en parler un peu plus loin, mais ici je veux que nous gardions en idée que Christ lui a dit, pour qu'il reçoive en moi, par la foi en moi, la foi, d'accord, en moi, le pardon des péchés, et l'héritage avec les sanctifiés. Maintenant, quand il a reçu cet appel et il a décidé de suivre le plan de Dieu pour sa vie, dans 2 Timothée chapitre 1, dans le verset 12, il a dit, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Il ne souffrait pas parce qu'il était criminel, non, il souffrait parce qu'il voulait vivre la réalité de la vie chrétienne. Et il dit, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. Ça veut dire, sur la route de Damas, j'ai cru en quelqu'un, je continue de croire en lui, je sais de quoi il est capable, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Donc, jusqu'au jour où je le rencontrerai. D'accord? Maintenant, au soir de sa vie, là, quand vous lisez les Écritures, vous devez comprendre que dans 2 Timothée chapitre 4, là, dans la seconde épître de Paul à Timothée, la sentence avait été déjà prononcée, on devait le décapiter. Là, il savait qu'il allait mourir, mais il a écrit cette dernière épître à Timothée. Dans 2 Timothée 4, verset 7, il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Tu vois, de bout en bout, au début, il a cru, il continuait à croire, il était en but à l'opposition, à la jalousie, à des tentatives d'assassinat, à bien d'autres choses. Les hommes comme les démons en avaient après lui. Et mais il a dit maintenant, j'ai gardé la foi. Et pour avoir gardé la foi, il a cette assurance que non seulement il sera récompensé, mais tous ceux qui viendront après. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc, il nous faut croire jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que si je crois aujourd'hui et que quelque temps après, je venais à cesser de croire en Christ, je ne suis plus qualifié à entrer dans le royaume. Hébreux chapitre 10, verset 38. Il a dit, le Seigneur a dit, et mon juste vivra par la foi. Ça c'est clair pour tout le monde. Mais s'il se retire, si ce juste se retire, s'il cesse de croire en moi, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mon juste vivra par la foi. Salomon a vécu par la foi, mais vers la fin de sa vie, il s'est retiré. Il a préféré croire aux divinités de ses épouses et concubines et autres. L'âme de Dieu n'avait pas pris plaisir en lui. Et donc ici, il dit, l'auteur m'a dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Si quelqu'un se retire, il va se perdre pour l'éternité. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Souvent quand nous lisons l'épître aux Hébreux, au chapitre, quand nous finissons ce dernier verset-là, nous pensons que c'est tout. Et quand vous tombez sur le chapitre 11, vous ne voyez pas le lien qu'il y a entre la dernière phrase et celle qui introduit le chapitre. Il dit, or la foi. Tu vois, si je crois, ce en quoi je crois, je le verrai se manifester. Ça, c'est le domaine de l'esprit, ça. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens, ceux qui avaient cru avant nous, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc, si quelqu'un ne croit pas en Dieu, ou a cessé à un moment donné de croire en Dieu, il n'obtiendra pas de témoignage favorable. L'incrédulité n'est pas un signe d'humilité. Donc si quelqu'un, à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, parce que la chanson nous dit, il nous faut. Ça veut dire qu'il y a des moments où notre foi en Dieu sera remise en cause. D'accord? on a comme l'impression que Dieu nous a déserté.
Est-ce qu'on peut dire que la foi sera éprouvée en ce moment?
Oui, bien sûr. C'est normal pour la foi d'être éprouvée.
Donc là, en ce moment, il nous faut croire.
Choisir de croire.
Okay,
malgré tout, choisir de croire. Envers et contre tous, choisir de croire. Quand rien ne va plus, quand tout semble indiquer qu'il n'y a plus d'espoir, ma réaction en tant qu'enfant de Dieu, votre réaction en tant qu'enfant de Dieu, c'est que dit la parole de Dieu par rapport à ma situation. Et dès que je découvre ce que la parole de Dieu dit, je m'en tiens à la parole. Et je fais fi de ce qui se passe, je dis la parole de Dieu l'a dit ceci là. Cette situation doit changer. C'est ça la foi. Ce n'est pas de la magie. C'est la confiance que nous avons en un Dieu qui est fidèle à lui-même et à sa promesse.
Très bien. L'autre Laurent, j'ai compris ton explication. Et donc, le chant peut être enregistré dans le répertoire de Hébreux chapitre 10, verset 25. Hein? Hébreux chapitre 10, le verset qui est en rapport avec la foi. Si mon âme, si le
Dieu. Ok, Hébreux 10, verset 38 et 39.
Verset 38 et 39. Très bien. Bon, maintenant, que dire? Peut-on dire que le chant est un appel qui est lancé à l'endroit de ceux-là qui sont sur le point de flancher?
Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que l'incrédulité n'a jamais été et ne sera jamais un moyen pour attirer la faveur de Dieu. Jamais.
Okay.
Jamais. C'est plutôt le contraire. Pourquoi? Dans Hébreux chapitre 3, il est dit ceci. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltaient après l'avoir entendu? Qui sont ceux-là qui s'étaient révoltés après avoir entendu la parole de Dieu? Le texte va vous dire, sinon, ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Ces gens ont quitté l'Égypte, ça c'est tout à fait normal, puisqu'ils ont traversé la mer Rouge, ils ont vu Dieu se manifester sa puissance ça et là, mais après, là, quand ils écoutent la parole de Dieu, ils décident de se rébeller. Alors donc il dit, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient? Des gens étaient dans la présence de Dieu. Ils avaient une manifestation visible de la présence de Dieu. Mais ils choisissaient de pécher contre Dieu. Quand les filles de Moab passent là, les filles de Madian, allez, il y a des gens qui se sont livrés à l'impudicité à cœur joie, et ils ont payé de leur vie. Il y avait eu entre-temps la bande de Dathan, Corée, Abiram, qui recherchait la position, ils cherchaient à faire un coup d'état religieux ou ecclésiastique. Donc, ils ont perdu de leur vie. Quand vous lisez les Écritures, si vous voulez savoir qui Dieu est là, observez ces faits et gestes dans cette relation avec l'humanité, et vous allez le connaître, frères et sœurs. Et Lucifer et ses amis là, ils ont péché une seule fois, ils ont été chassés du ciel et ils ont perdu la présence, la gloire de Dieu. Adam et Ève là, c'est une seule fois ils ont péché. Donc ça vous montre que ce Dieu là, il ne tolère pas le péché, il aime le pécheur, ça c'est tout à fait normal, mais il ne peut pas accepter que vous le quoi. C'est comme si vous êtes devant lui, vous tirez la langue, vous dites oui, bon, on est sous la grâce, je peux faire ce que je veux. La foi, c'est la confiance indéfectible en la fidélité de Dieu, peu importe les circonstances. La Bible nous a donné un exemple. Vous prenez Abraham, un monsieur très âgé, la femme très âgée, et pourtant Dieu lui dit, vous aurez un enfant. Et quand vous lisez le texte dans Genèse, la dame, elle a ri, Sarah a ri, oui,
exactement.
Mais parce que Dieu est omniscient, il discutait avec Abraham, Sarah était dans l'attente, mais Dieu savait qu'elle a ri. Et il a dit, mais pourquoi ta femme a ri? Il dit, non, je n'ai pas ri, il dit, non, tu as ri, et ainsi de suite. Mais ce que Dieu a dit, c'est accompli. Et l'apôtre Paul, vous le connaissez pour ça, très fort dans le maniement de la langue du grec, il a dit, il a dépeint la situation en disant, Romains chapitre 4, verset 18, espérant contre toute espérance. Il crut, c'est-à-dire Abraham, en ce qui devait le père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Ça, en fait, à cette époque-là, il n'avait aucun livre. C'est la voix qu'il a entendue. Donc, il a cru en cette voix, alors que physiquement, c'est impossible pour qu'il puisse avoir un enfant de Sarah. Donc, là, il dit, étant faible dans la foi, il ne considéra pas que son corps était usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité. Tu vois, ouais. L'incrédulité. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu,
ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Vous voyez cette partie-là? Ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Si Dieu l'a dit, si tu lis dans la parole ce que Dieu a dit là, Dieu a la capacité d'accomplir ce qu'il a dit, c'est pour cela qu'il n'avait pas écrit. S'il avait laissé au soin des hommes, avant que la parole ne nous parvienne, les gens vont... on ne comprendra rien du tout. C'est pour cela qu'il n'avait pas écrit. Donc si je lis la parole et je vois la promesse, c'est Dieu qui l'a dit, c'est sa parole et il va l'accomplir parce qu'il n'y a pas d'injustice en Dieu. Et l'infidélité ne saura être attribuée à Dieu. Donc, avec ça, il nous faut croire en ce que Dieu a dit.
Très bien.
Dans sa parole.
C'est ce que j'ai voulu tirer comme conclusion dans, dans ton commentaire. Et il nous faut croire en ce qu'il a dit en sa parole.
Dans sa parole. Oui.
Et il faut même, des fois, amener cette parole-là devant Dieu dans la prière.
Bien sûr.
Et insister jusqu'à ce qu'on obtienne...
Tu vois la réalité. Exactement. Mais là, quand je dis ça, la parole est là. C'est vrai que très souvent, quand nous prenons nos Bibles, les parties les plus soulignées, c'est les promesses de Dieu, que beaucoup de gens soulignent. Comme si Dieu va juste vous obéir, ou bien faire vos petites volontés. Non. Il y a une condition. La condition sous la nouvelle alliance, c'est qu'il faut demeurer fils et fille. C'est en étant dans cette alliance, en tant que fille de Dieu, en tant que fils de Dieu, que je m'approche du trône de la grâce pour lui dire, « Ah, Père, dans ma vie, il y a cet événement-là qui se produit, qui s'est produit ça fait longtemps, qui est en contradiction avec ta parole. Je veux que cette chose s'en aille. » Et je discute avec lui et je parle. Et quand tu pries, il sait que tu comprends sa parole. Parce qu'il ne t'a pas légué la maladie, les malédictions, le mal et tout ce et le malheur. Non, ça ne fait pas partie du programme de Dieu. Quand ça vient dans ma vie, j'en parle à Dieu et il s'occupe de ça. Paul avait compris, c'est pourquoi quand il était perturbé par un événement fâché dans sa vie, il dit 3 fois, j'ai prié le Seigneur. Enlève-moi ça. Et le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Tu vois, ça c'est la révélation ça. Dès qu'il a compris cela, il ne s'embarrassait plus par rapport à cette faiblesse dans sa vie, à ceux qui venaient le trouver. C'est ça la marche avec Dieu. Frère, le livre de Dieu est là, mais vous ne pouvez pas juste aller piocher un verset, commencer par dire des choses. Si vous-même là, vous n'entrez pas dans l'alliance, il faut être partisan de l'alliance. Il faut être une nouvelle créature pour bénéficier de tout ce qui est en lien avec la nouvelle alliance. Si vous êtes une ancienne créature, c'est-à-dire, vous êtes un descendant d'Adam, vous n'êtes pas né de nouveau, l'Esprit de Dieu ne vous a pas régénéré. Vous pouvez citer les promesses de matin au soir, rien ne vous arrivera. C'est ce qui est arrivé à Corneille. D'accord, il n'était pas converti, mais il avait un bon cœur. Et il cherchait Dieu, et il jeûnait même. Pourquoi il n'était pas né de nouveau? Il ne pouvait pas, il devait entendre l'Évangile. C'est pour cela que ce soit les rois, les autorités, les princes, qui que ce soit, tout le monde a le droit d'écouter la bonne nouvelle. Après l'avoir écouté, vous laissez la personne décider de choisir obéir à Christ ou pas. D'accord? Mais si la personne se comporte comme Hérode, hein, où Jean-Baptiste est allé là-bas, il désirait entendre Jean-Baptiste lui prêcher. Tu vas prêcher une première fois, une seconde fois, une troisième fois, une énième fois. Dans Timothée, il a dit, certaines personnes-là, quand tu leur donnes des avertissements, une fois, deux fois, trois fois, il faut t'éloigner d'eux. Ils te perdent le temps. Il a insisté et il a perdu sa tête. Tu vois un peu, Dieu ne l'a pas envoyé faire un ministère dans le palais royal. Non, non, non. Il devait montrer à Israël le Messie. Et tout en continuant à faire cela, il ne pouvait que faire ça. Ça veut dire que là où le Christ est, lui devait aller ailleurs pour la vie. Il va venir bientôt, il va faire tout ce qu'il devait faire. Personne ne l'a invité dans un palais royal. C'est pourquoi il a perdu sa tête. Donc, frères et sœurs, le temps est très court. D'accord? Le roi revient bientôt. Il ne faut pas perdre le temps avec des récidivistes dans l'église là. Tu leur prêches aujourd'hui, tu leur enseignes aujourd'hui, tu fais tout. Et ils prennent plaisir à venir, je dis oui, ah, pasteur, j'ai encore péché, hein. Non, vraiment, je ne sais pas. Mais c'est quand je pêche la salle, c'est vraiment doux, mais c'est après que je regrette. Sinon, je suis à un moment donné, il faut le discipliner. D'accord? Il ne faut pas comparer les gens quand ils ne sont pas sérieux avec Dieu. Il ne faut pas dire, ah non, il faut être patient avec lui. Et c'est un peu, on change, c'est pas vrai. Personne n'est né un peu. Naturellement, là, nous sommes tous venus au monde un jour donné. Et en ce qui concerne la bonne nouvelle, ça, en un jour aussi, à un moment donné, on naît de nouveau. On ne naît pas de nouveau graduellement. Quand tu nais de nouveau, tu peux croître graduellement.
Merci, l'autre Laurent. Ça, c'était la première vérité qu'on est en train de découvrir par ce chant. Il y a la deuxième vérité qui arrive. Et là, on va encore écouter la chanson jusqu'à la première strophe. Je vous laisse écouter. Il nous faut croire. Seconde vérité révélée dans ce cantique interprété par la chorale Cri de joie est son grand amour est répandu dans nos cœurs. L'autre Laurent, est-ce qu'on est conscient que le grand amour de Jésus est vraiment révélé dans nous, est vraiment répandu dans nos cœurs? Est-ce qu'on est vraiment conscient? Est-ce que c'est vrai, c'est réel en nous?
Bien là, je vais parler des deux alliances. L'alliance, sous l'ancienne alliance,
oui.
Le signe manifeste pour les hommes en Israël, c'est la circoncision. C'est-à-dire la circoncision de la chair. D'accord?
La chair, ok.
D'accord. Donc okay. Ça, c'est le signe manifeste. Mm. Et sous la nouvelle alliance,
oui.
Tout ce qui se faisait sous l'ancienne alliance était l'ombre des choses à venir.
Oui.
Mais là, sous la nouvelle alliance, ce qui est de mise, ce n'est pas la circoncision de la chair, du prépuce de l'homme,
oui.
Mais la circoncision du cœur, qui est spirituelle. Là, j'explique. Déjà, dans Deutéronome chapitre 30, quand vous lisez le verset 6, il est dit, « L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur, et le cœur de ta postérité, et tu aimeras. » Ça veut dire, si l'Éternel circoncit ton cœur, tu pourras l'aimer. S'il ne le fait pas, tu ne pourras pas l'aimer. D'accord? Donc, l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives. Et là, nous comprenons qu'à moins que Dieu ne fasse cette circoncision de notre cœur, et jusqu'à ce que Dieu ne fasse cette circoncision de notre cœur, cette réalité de la vie chrétienne sera un mystère pour qui n'a pas fait l'expérience. D'accord? Et là, je vais maintenant lire une autre portion des Écritures qui va décrire comment Dieu va s'y prendre. Parce que, n'oubliez pas, quand Dieu disait ça, les enfants d'Israël, tous les mâles étaient déjà circoncis. Mais Dieu leur parle d'une autre circoncision. Pour eux, ce sera étrange. C'est quoi le cœur? Comment le cœur sera circoncis? Ézéchiel chapitre 11, verset 19, je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances, et qu'ils observent et pratiquent mes lois, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Ça, c'est le nouveau peuple de Dieu, ça. Et tout ceci est en lien avec, n'oubliez pas que Ézéchiel était un prophète de la déportation, d'accord? C'était en déportation qu'il a reçu tout ce qu'il avait reçu. Dieu leur disait, après 70 ans, quand vous serez retournés chez vous, lorsque vous aurez décidé de suivre ma parole, j'interviendrai. Et là, en ce moment, vous mettez les prophètes ensemble, vous comprendrez que c'est quand le Messie sera venu que cette réalité spirituelle-là, les gens pourront l'expérimenter. Et le Messie étant venu, à travers l'œuvre que l'Esprit de Dieu fait maintenant, lorsque quelqu'un est né de nouveau, donne sa vie à Christ, le cœur dans lequel Dieu répand cet amour-là, ce n'est pas le cœur ancien. Ce n'est pas le cœur de pierre. Ce n'est pas le cœur qui est naturellement méchant et tortueux par-dessus tout. C'est ce que Jérémie a dit. Ce cœur-là, tout le monde l'a à la naissance. D'accord ? On n'enseigne à personne d'être rusé. Mais la ruse sera là, manifeste. C'est un legs de d'Adam. C'est ça qui vient de la chute d'Adam et d'elle. Mais à la nouvelle naissance, quand la transformation se produit en nous, l'Esprit de Dieu maintenant opère ce qui est dit dans Ézéchiel. Le cœur de chair est enlevé, le cœur de pierre est enlevé, le cœur de chair nous a donné. Parlant ainsi d'une nouvelle disposition que nous avons. Donc l'amour de Dieu et l'amour du prochain devient une réalité lorsque le cœur a été circoncis par le Seigneur. Tu vois, quand tu lis les béatitudes là, quand Jésus a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu », ce qu'il est en train de dire là, cette parole-là n'est pas pour l'éternité. C'est-à-dire que ce n'est pas au ciel que tu auras le cœur pur, c'est dès ici-bas. C'est dès ici-bas que l'on fait l'expérience de la pureté du cœur. Alors donc, dans Romains chapitre 5, verset 7, l'apôtre Paul dit « Oh, l'espérance ne trompe point ». Pourquoi ? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc tu vois, c'est le Saint-Esprit qui vient opérer ce changement en nous. Et quand il opère le changement en nous, le premier signe c'est que nous aimons Dieu passionnément. Deuxième élément, nous aimons les hommes qui sont créés à son image. Sans aller penser. D'accord ? Sans anguille sous roche. Nous aimons les gens parce que c'est des créatures de Dieu. Alors, dans Actes chapitre 2, on va voir si cela s'est une fois produit. D'accord ? Puisqu'il a dit, vous aurez un même cœur. Dans Actes chapitre 2, verset 44, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Un autre passage pour conforter là. Actes chapitre 4 en 2, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur. Unité. Un cœur. Qu'une âme. Ça, c'est l'unité, ça. D'accord ? Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Donc, cette œuvre-là de l'Esprit s'est accomplie. Ce que j'ai lu dans Ézéchiel, là, ça s'est accompli. Le Saint-Esprit, quand il vient là, c'est pas juste pour que nous parlons en langue. Il y a une autre qui fait dans le cœur. La sanctification là, c'est l'Esprit de Dieu qui le produit. Il transforme ce cœur là, méchant que nous avons, et nous donne maintenant de comprendre en miniature comment Dieu nous aime. D'accord ? Si vous prenez une goutte d'eau de l'océan, c'est vrai que la goutte de l'océan ne représente pas tout l'océan, mais ça a les mêmes caractéristiques que l'océan. Donc cette nouvelle vie que Dieu nous donne là, c'est la vie de Dieu, la vie Zoé. Donc nous expérimentons en miniature ce que Dieu expérimente quand il voit la création. Il aime la création. D'accord ? Mais il n'approuve pas le péché que commet la création. Il aime les hommes, il veut que tout le monde soit sauvé. Et il met tout en œuvre pour que tout le monde soit sauvé. Celui qui a en lui véritablement l'Esprit de Christ, en qui se produit ce changement de circoncision du cœur, quand il dit qu'il prêche la parole, c'est avec passion. Il veut voir les gens être sauvés. Quand Abraham est devenu prêcher, il passe du temps devant le Seigneur, souvent c'est avec les pleurs. Parce que tu te dis, Seigneur, si je vais leur parler, ils ne se convertissent pas. Peut-être que c'est la dernière fois que quelqu'un va écouter ce message. Et s'il s'en va, s'il entre dans l'éternité sans se convertir, oh Seigneur, tu as quelque chose en moi qui empêcherait le flot de l'onction. Seigneur, ôte cette chose pour que je sois disponible et disposé, pour que tu puisses parler en moi et au travers de moi et transformer les vies. L'objectif primordial de la bonne nouvelle, ce n'est pas la guérison du cœur, c'est la transformation du cœur, la transformation de la vie de l'individu. La guérison, les miracles, là, ça c'est des bonus. Ce que Jésus cherche avant tout, ce que le Père cherche avant tout, ce que le Saint-Esprit cherche avant tout, c'est que les hommes se réconcilient avec leur Créateur. Parce que là où ils iront après cette vie-là, ils n'auront aucune chance. Même Dieu lui-même sera dans l'incapacité de les sauver. Quand quelqu'un entre dans l'éternité sans Christ, Dieu ne pourra plus rien pour cette personne, parce que c'est un Dieu de justice. Il ne pourra plus rien du tout. Donc c'est maintenant que nous permettons à Dieu de circoncire nos cœurs. Et quand cela se fait, un frère côté, une soeur là, tu n'auras pas de... C'est-à-dire que ces idées-là de « je n'aime pas ceci je... », non, les gens en acte, là qu'on l'a dit tout à l'heure, ils étaient ensemble. N'oubliez pas, il y a des gens qui étaient incultes, d'accord? Il y a certains qui étaient de la diaspora, qui étaient venus de l'extérieur, mais personne n'a dit « non, 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 nous sommes de la diaspora, et on ne peut pas s'asseoir avec les gens primitifs comme ça ». Non, il n'y avait pas. Quand ce changement se produit, il y a un certain nombre de caractéristiques, j'en parlerai quand on va évoluer dans l'émission.
Très bien, l'autre Laurent, si je comprends ton développement, il faut être circoncis de cœur avant de recevoir cette grâce-là d'aimer, cette grâce-là du Seigneur, de recevoir cet amour-là qui répand en nous. Mm-hmm. Maintenant, on a des frères, on a des sœurs qui sont sanctifiés, mm-hmm. on a des hommes de Dieu sanctifiés, mm-hmm. et comment se fait-il qu'il y a tant de haine, de division, de dispute, de méfiance parmi les chrétiens?
Oui, tout ce que nous recevons de Dieu, nous le recevons par la foi. Et dès que nous recevons de Dieu quoi que ce soit, nous avons la responsabilité de veiller sur ce que nous avons reçu dans notre marche avec lui. Nous devons grandir. Maintenant, là je vais te donner quelques exemples. Les apôtres, avant qu'ils ne fassent cette expérience-là, avant que l'Esprit ne vienne purifier leur cœur et leur donner la capacité d'avoir cette nouvelle vie en eux, ils manifestaient ce que nous voyons, ce dont tu viens de parler. Tu as parlé de haine, de division, de dispute, de méfiance, tout cela. Dans Luc chapitre 9, du verset 52 à 55, et là vous connaissez l'histoire. Jésus devait passer par une ville des Samaritains, il allait vers Jérusalem, et les Samaritains ont dit, pas question, tu ne passeras pas par notre territoire. Est-ce que Jésus était fâché? Non. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est Dieu qui est devenu un être humain, et il les aime, il aime les Samaritains. C'est lui qui les a créés. Il n'a éprouvé aucune amertume, aucune. Mais à côté là, les disciples Jean et Jacques, les deux frères là, quand ils ont vu ça, ils se sont mis en colère. Vous savez, il y a des moments où nous sommes en colère et que Dieu n'est pas en colère. Et nous mentons dans le compte de Dieu en pensant que parce que je suis en colère, Dieu est en colère. Et là, il dit, le Seigneur, veux-tu que nous commandons que le feu descende du ciel et les consume? Ça nous rappelle quoi? Les genres de prières que nous entendons parler aujourd'hui. Quand on dit aux gens, c'est la Bible la référence, ne faites de personne une référence. Quand cette transformation se produit dans ton cœur, hey, ta haine là, ce ne sera jamais contre un être humain, mais ce sera contre les démons. Mais si jamais ta haine est contre un être humain, au gain, tu es tombé. Tu es redevenu une ancienne créature. Donc ici, quand ils ont dit ça, la Bible dit, Jésus se tournant vers eux et les reprimanda. Vous savez, quand vous lisez dans les Écritures, là, les interactions du Seigneur avec les apôtres et autres, vous ne le verrez pas faire ce qu'il a. Ici, il les a reprimandés. Ça veut dire qu'il n'est pas content. Il n'a pas apprécié leur comportement. Il les a reprimandés et il a dit quoi? Vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. Quand vous avez un zèle amer.
C'est sévère, hein, ce que le Seigneur a dit. C'est vraiment sévère.
C'est une réalité. Ça veut dire, parce que si vous rentrez dans les détails, vous êtes en train de vous laisser manipuler par les démons.
Par le diable.
Oui, oui.
Les démons.
Oui, oui.
Waouh.
Tu vois, donc là, ces gens-là avaient de la haine contre les Samaritains. Et ça, parce qu'il y avait des relents de quoi? Des classes traditionnelles. C'est frère, sœur, si tu es né de nouveau, et que peut-être pour d'un point de vue historique, les gens de ton clan n'aiment pas les gens de tel autre clan ou de telle autre chose, ou bien vous nous écoutez maintenant, on dit malencontreusement que vous êtes blanc, alors que naturellement aucun être humain n'est blanc, d'accord? Et que de parce que tu as reçu comme héritage, on vous dit de ne pas aimer les noirs, et que tu as ça en toi tout en prétendant être chrétien, tu mens, tu n'es pas né de nouveau. Parce que quand le Saint-Esprit accomplit cette œuvre en toi, quand tu verras un noir, tu l'aimeras, parce que pour toi, il n'y a qu'une race, la race humaine. Les blancs, les jaunes, les bleus, tout ça, c'est les variétés de la race humaine. Et Jésus est venu mourir pour la race humaine. Il n'est pas venu mourir pour un clan, pour une tribu, pour quoi que ce soit. Donc, ici, de par ce que nous sommes en train de dire, si vous comprenez les Écritures, vous voyez que ces gens-là, ils n'avaient pas encore reçu la transformation de leur cœur. C'est pour cela qu'ils ont dit ce qu'ils ont dit. Après, maintenant, quand tu lis la suite, les autres vont se mettre là, ils vont se tâcher. Mais pendant vous deux là, vous vous dites. Donc, quand vous prenez Matthieu, Marc chapitre 10, là aussi il va y avoir un incident. Les deux frères là vont venir voir Jésus. Oui, ils disent, Seigneur, en même temps, mieux. Que là où on est maintenant là, on va avoir une garantie. Parce que quand on va rentrer dans ton royaume là, moi il faut que je sois à droite et que mon frère soit à gauche. La Bible dit que Dieu, Jésus est assis dans les lieux célestes à la droite du Père. Maintenant, si vous mettez l'un de ces gens à la droite là, vous voyez un peu. Vous voyez un peu.
L'un d'entre eux va prendre la place de Dieu.
Ah, vous voyez. Et quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, vous verrez que sur le trône, personne d'autre ne peut s'asseoir sur ce trône. Si ce n'est le Seigneur et l'agneau. Donc, les véritables vieillards étaient sur les trônes, mais ils ne peuvent pas s'asseoir à côté du Seigneur parce qu'ils ne sont pas Dieu. Alors, ceux qui enseignent, rassemblent les gens, leur enseignent en disant que nous sommes des dieux, vous n'avez rien compris. Nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes créés à l'image selon la ressemblance de Dieu, mais nous ne sommes pas des dieux. Alors, donc là, nous comprenons que ces apôtres-là, avant leur conversion, okay, avant qu'ils ne fassent l'expérience dont Ézéchiel a parlé, un esprit nouveau, un cœur nouveau, avant qu'ils ne fassent cette expérience-là, on pouvait voir ces relents en eux. Quand tu lis Jacques chapitre 4 à partir du verset 1 là, Jacques lui sera Dieu aussi. Il t'a dit des choses, d'où viennent les luttes, tu m'as parlé de luttes, d'où viennent les querelles parmi vous, n'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? D'accord? Quand il y a les luttes entre pasteurs, entre fidèles, entre ceci, il dit, vous êtes supposé ne pas avoir ça, mais quand ça se manifeste là, c'est les passions. Et les passions dont on parle ici, on parle des passions charnelles. Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. Un chrétien meurtrier. Vous souhaitez la mort des gens. Vous êtes envieux. Ce que l'autre a, tu ne l'as pas, mais tu l'envies. Vous êtes envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Pourquoi? Parce que vous ne demandez pas. Et ok, bon, on n'a pas demandé. Vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Comment tu le sais? Dans le but de satisfaire vos passions. Vous voyez, l'écriture, c'est ça, le livre de Dieu, c'est ce que nous devons prendre. Donc, vous voyez, ces gens-là, ils ont tout cela, et il est à l'état de vous êtes des adultères. D'accord? Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Ça veut dire, si vous avez l'amour du monde en vous, l'amour de Dieu n'est plus là. C'est ce que l'apôtre Jean lui va dire en Jean chapitre 2, verset 15. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père le prend en lui. Donc, maintenant, si tu me demandes, comment se fait-il qu'il y ait ces choses-là parmi ceux qui sont supposés être des saints? Mais c'est parce que certains ont retourné à Dieu. C'est parce que certains ont perdu l'expérience. C'est parce que certains ont permis à la chair de prendre le dessus. Si Dieu me sanctifie, j'ai la responsabilité de veiller sur mon cœur, sur ma vie pour grandir dans cette expérience. C'est pour cela que dans 2 Timothée chapitre 2, verset 21, il est dit, si quelqu'un se conserve pur, il faut avoir été purifié pour décider de se conserver pur. Et 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1, il dit, nous, ayant de telles promesses, bien aimé, là il faut remonter dans le chapitre 6, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Ça veut dire quoi? Je dois veiller. Quand il y a des mauvaises pensées qui arrivent, quand il y a des choses qui ne l'ont pas vu qui arrivent, je dois tout faire pour m'en débarrasser. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu, on achève ce qu'on a commencé. Si vous avez été sanctifié, vous avez la responsabilité de marcher de progrès en progrès à cet égard. La vie chrétienne ne se vit pas au hasard. On fait des efforts, on décide de ne pas aller dans certains lieux, on décide de ne pas boire certaines choses, on décide de ne pas toucher à certaines choses, on décide à ce que certaines autres choses ne nous touchent pas. Mais si on n'arrive pas à faire ça, et qu'on croit que oui, parce qu'entre temps on s'est rassemblé, on a dansé un peu, on a senti des frissons, on va aller au ciel, vous êtes en train de vous tromper. Si vous n'avez pas les caractéristiques d'une nouvelle créature, un cœur pur, un esprit nouveau, si vous ne l'avez pas, malgré les danses, malgré les dîmes, malgré tout ce que vous voulez faire, vous ne pourrez pas aller au ciel. Je suis désolé, je dois vous le dire. 1 Jean chapitre 5, verset 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, ne pratique pas le péché. Frère, sœur, si tu pratiques le péché, tu n'es pas né de Dieu. C'est ça ce que dit l'Écriture. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, se préserve lui-même. Et le malin ne le touche pas. C'est pour cela que le diable avait dû demander la permission avant de toucher Jean. Parce que le monsieur était interne. Vous voyez maintenant, non? Si tu dors et tu es tout le temps oppressé sur ton lit là, c'est parce qu'il y a une faille dans ta vie. Si chaque dimanche, là, ils vont prier contre les malédictions, là, c'est parce que tu n'as pas encore compris en quoi consiste la vie chrétienne. Quand quelqu'un est né de nouveau, il est une nouvelle créature. Il appartient à une nouvelle création. Il est fils ou fille de Dieu. Et de cette position-là, les démons ont peur de cette personne. Mais s'il faut de façon répétitive et, traditionnelle, revenir chaque fois, ça veut dire qu'on n'a pas compris. Revenez à la Bible. Ne laissez personne vous tromper. Si Christ vous a franchi du péché-là, toi-même, tu peux dire à quelqu'un, tu sais, avant, hein, j'étais esclave de ce péché. Mais quand Jésus est venu là, il m'a délivré de ça. Si tu ne peux pas dire ça, et que tu es en train de pomponner le péché-là, tu n'es pas converti.
Très bien. On va évoluer dans l'émission avec la troisième partie de la chanson. On réécoute la chanson « Il nous faut croire ». Chorale, cri de joie.
Il nous faut croire.
Deuxième vérité révélée dans cette chanson, c'est ce que nous écoutons en fond sonore. Jésus est mort, mais il est ressuscité. Gloire à son nom. L'autre Laurent, troisième vérité, notre Seigneur, il est mort, mais il n'est pas resté dans la tombe. Il est actuellement ressuscité et même plus assis à la droite du Père.
Alors, avant de répondre à cette question, oui. Tantôt je parlais de ce qui se passe quand cette transformation se produit en nous.
D'accord.
D'accord. Quand il y a la circoncision du cœur.
Oui.
Vous savez, quand cela se produit, là, quand vous pardonnez, vous ne gardez pas rancune.
Ok.
Quand ce cœur-là est transformé,
okay.
Vous pardonnez, vous ne gardez pas rancune.
Ok.
Vous faites des erreurs, vous corrigez, parfois à tort ou à raison, vous acceptez d'être corrigé. Si vous ne vous mettez pas en colère et vous cherchez, je vais lui montrer. Non, vous n'avez rien à montrer. S'il y a quelque chose à montrer, c'est montrer Christ qui est manifeste en vous. Vous voyez, l'apôtre Paul avait réprimé Pierre en public devant des gens. Et Pierre était un responsable.
Oui, il était
Pierre conduit à Jérusalem.
Oui, oui, oui.
Et
oui.
Pourtant, oui. Quand Pierre écrivait dans son épître, il a dit, notre bien-aimé frère, Paul, écrit des choses que beaucoup ne comprennent pas. Et il tord le sens de ses écrits. Vous voyez qu'il dit selon la grâce qui lui a été donnée. Bon, si c'est aujourd'hui là, il va chercher un moyen pour lui rendre le coup. C'est parce que ce monsieur, il était transformé. C'est pourquoi malgré que Paul l'ait réprimé, il n'a pas dit, il va prendre une épître spéciale pour le vilipender. Non.
Okay.
Donc quand cette transformation se manifeste en vous, vous allez pas, vous serez étonné vous-même de parfois comment vous laissez faire certaines choses. Parce que là, ce que Jésus aurait fait dans cette situation, c'est ce que vous préférez faire. Vous ne serez pas parmi les gens qui se rassemblent pour manigancer. Non, 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 non. Non. Quand cet amour est là, vous ne vous vengez pas.
Okay.
Vous laissez à Dieu le soin de se venger. Et de là, je vous lis juste un verset pour ça, Romains chapitre 13, verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. D'accord?
Romains chapitre
13, verset 10. L'amour est donc l'accomplissement de la loi.
Très bien.
Frère, comment serais-je que je suis pur, que mon cœur est pur? Lorsque je ne choisis pas délibérément de faire du mal à mon prochain. Si vous le faites, quelle que soit la raison, vous avez échoué.
Très bien. Troisième vérité, Jésus est mort, mais il est ressuscité.
Oui, mais la résurrection de Christ, c'est l'un des miracles inégalés dans l'histoire de l'humanité.
Ok.
De ce que quelqu'un soit mort,
oui.
La mort a été constatée. Parce que les soldats romains, ils connaissaient, ils ont toujours fait ce boulot-là.
Oui.
Ils ont percé son côté. D'accord? Et quand vous lisez les évangiles, dès cet instant, on commence à parler du corps. On parle du corps.
Du
corps de Jésus. Le corps de Jésus. Il est mort. Mais quand il est revenu, quand la vie de Dieu est revenue en lui, le corps qu'il a n'est plus le corps qu'il avait auparavant. Physiquement, c'est le même corps. Mais quelque chose s'est passé. Il n'y a plus de sang dans ce corps. C'est la vie de Dieu qui est dans sa plénitude. Et là, à partir de ce moment, Jésus est devenu un esprit vivifiant. C'est ce qui fait que si tu es né de nouveau, Jésus vient vivre en toi. Si ma soeur est née de nouveau, Jésus vient vivre en cette. Alors qu'avant la croix, il ne pouvait qu'être en un seul lieu. Maintenant, comment savons-nous que Jésus est ressuscité? C'est lorsque moi, en qui il réside, je lui permets de faire ce qu'il a toujours fait. Il enseigne la parole, sans crainte ni frayeur. Il guérit les malades. Donc, je me laisse et lui fait son œuvre à moi. Lorsque j'impose les mains à quelqu'un physiquement, c'est moi qui impose les mains. Mais le Jésus en moi, c'est lui qui étend sa main. Si je comprends ça, je verrai que ce n'est pas moi qui fais quelque chose. Mais parce qu'il est ressuscité, il continue de faire en moi ce qu'il faisait quand il était physiquement sur la terre. Donc, c'est ce qui a fait que on peut recevoir Jésus dans n'importe quelle circonstance et d'être de nouveau. Avant, ce ne sera que la femme samaritaine au bord d'un puits, où il est rentré dans le village des femmes samaritaines. Mais maintenant, là, partout dans le monde, sur la face de la terre, celui qui écoute le message de l'évangile et croit, naît de nouveau, devient une nouvelle créature. Et ça, c'est parce qu'il est ressuscité. Et c'est sur cette base, d'ailleurs, qu'ascendu aux cieux, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui nous a donné.
Merci, l'autre Laurent. Voilà, on va s'arrêter ici pour l'émission de ce jour. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Chers auditeurs, nous avons repris, nous sommes là dans ce studio en direct. J'espère que chacun de nous a tiré de cette émission un enseignement, voire une leçon. La balle est dorénavant dans notre camp et il nous revient de la jouer. On vous laisse avec la chanson « Il nous faut croire », interprétée par la chorale « Cri de joie ». Bye bye et à dimanche prochain.
Il nous faut croire, il nous faut croire en lui.